Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Univox, l'émission commune du réseau Radio Campus France. Aujourd'hui, c'est Radio Campus Angers qui prend le relais et on s'est rendu au mois du genre 2024, un événement organisé par la faculté d'Angers où plusieurs ateliers et conférences ont eu lieu à destination des étudiants et des étudiantes, mais aussi au reste du public angevin. Et pour cet épisode, nous avons rencontré la chercheuse Charlotte Puiseux, venue discuter de son ouvrage « De chair et de fer, vivre et lutter dans une société validiste ». Elle nous parle de discrimination liée au handicap, de croisement des oppressions et d'études crip, queer et féministes.
Univox.
Bonjour Charlotte Puiseux, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en philosophie et vous travaillez entre autres sur les questions du validisme, du handiféminisme et de la handiparentalité. Vous êtes à Angers à l'occasion du mois du genre et vous venez nous parler de votre essai « De chair et de fer, vivre et lutter dans une société validiste ». Avant toute chose, il me semble important de revenir sur ce thème central qui permet la compréhension de votre essai, qui est le validisme. On peut en trouver une longue définition sur le site de l'Université d'Angers, mais j'ai choisi seulement une partie, que vous pourrez compléter si vous le souhaitez. Le validisme classe et hiérarchise la diversité corporelle, tout en estimant que les êtres sont incomplets, défaillants ou à réparer, et que leurs vies sont intrinsèquement peu désirables. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ?
Oui, elle est assez juste à mon sens. Moi, quand je parle de validisme, j'insiste toujours beaucoup sur cette notion de hiérarchie parce que je pense que c'est vraiment central. Parce que oui, le validisme classe les individus, les personnes en fonction de certaines normes et de certaines catégories, de normes médicales notamment aussi, par rapport à des tests très factuels, où la médecine fait passer des tests de QI, on pense, ou des tests de réadaptation physique pour voir si les personnes peuvent faire tel ou tel mouvement, ce qui du coup amène à des classements. Mais j'ai envie de dire, si on s'arrêtait là, mais le validisme, c'est pas que ça. Le validisme, c'est justement qu'on utilise ces classements donc pour désigner qui est handicapé et qui est valide, et qu'ensuite on hiérarchise justement ces deux catégories en disant que les personnes handicapées ont moins de valeur dans la société, que leur vie vaut moins la peine d'être vécue que celle des personnes valides. Et ça, pour moi, c'est le cœur du validisme, c'est cette hiérarchisation, cette valorisation qu'on donne aux vies selon les critères être handicapé ou être valide. Et le deuxième point aussi, c'est que ça touche l'ensemble des sphères sociales, c'est-à-dire qu'on parle de système parce que ça touche toutes les sphères de la vie, en fait. C'est pas cantonné à un domaine, c'est partout. C'est dans l'accès au travail, au logement, à la vie amicale, amoureuse, à l'école, vraiment tout ce qui fait une vie sociale.
Sur la question de la hiérarchisation, j'ai vu que, en faisant mes recherches, j'ai compris que le validisme, on pouvait le subir ponctuellement, de manière plus ou moins durable, ou en permanence, qu'il est possible d'en être victime sans pour autant être reconnu, donc comme ce qu'on disait officiellement, comme une personne en situation de handicap. Encore une fois, on voit bien donc cette hiérarchie. Ça veut dire que, par exemple, si on a un handicap visible, on est plus victime de ce système-là.
Après, la distinction valide handicapé, elle est à mon sens beaucoup plus floue que ce qu'on peut penser. Et ça, justement, pour moi, c'est le fruit du système validiste que d'opposer comme ça frontalement personnes valides et personnes handicapées en disant, voyez, si vous êtes valide, vous pouvez pas être handicapé. Si vous êtes handicapé, vous pouvez pas être valide. Ça, c'est le validisme en fait qui crée cette situation. Alors qu'en fait, quand on réfléchit un peu à ce système, qu'on comprend un peu mieux ce qui se passe, on voit que la distinction, elle est beaucoup plus floue parce que Déjà, voilà, une même personne au cours de sa vie peut être valide à un moment donné, devenir handicapée, puis peut-être aussi récupérer un peu certaines fonctionnalités et redevenir plus valide qu'elle a été handicapée à un moment. Enfin voilà, c'est une frontière qui peut être très floue chez une personne. Et puis aussi oui, il y a toute la question, par exemple, des handicaps invisibles. Elle paraît valide aux yeux de la société, et alors qu'en fait, elle est en situation de handicap. Et donc, en fait, il y a tout un phénomène de performativité, ce qu'on appelle, c'est-à-dire comment elle doit se montrer socialement pour être reconnue en tant que personne handicapée. Donc, des fois, en fait, elle doit jouer certaines difficultés pour être reconnue handicapée, parce que ses propres difficultés ne sont pas reconnues comme appartenant au champ du handicap, médicalement parlant. Donc en fait, il y a tout un tas comme ça de stratégies aussi qui peuvent être mises en place par les personnes qui ont des handicaps invisibles, aussi pour déjouer les préjugés souvent de fainéantise, par exemple. Une personne qui a un handicap qui se voit pas et qui va pas vouloir se lever de sa chaise ou faire certaines choses parce que ça va trop la faire souffrir, aux yeux des gens, comme elle est pas identifiée comme handicapée, ils vont dire elle est fainéante. Donc c'est tout un système aussi qui se met en place, un système validiste clairement, mais qui fonctionne bien sûr différemment que pour les personnes qui ont un handicap visible, pour le coup.
Juste pour faire un parallèle, ce que je comprends aussi là, c'est le rejet d'une certaine binarité qu'on retrouve aussi dans les mouvements queer et dans ce militantisme et dans les recherches aussi queer.
Oui, après moi, dans ma thèse, c'est vrai que j'avais comparé quelques notions à la base queer, et notamment cette question de déconstruction des binarités qu'on trouve dans le queer autour des questions de genre. J'avais réutilisé ces études autour de cette question pour justement essayer de déconstruire en effet la binarité entre handicap et validité, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, qui pour moi est fausse, en fait, cette opposition frontale que crée le système validiste est néfaste en plus, parce qu'elle ne nous permet pas de comprendre de comprendre mieux les situations des individus, de comprendre comment fonctionne justement le système validiste et du coup comment mieux le détruire.
Oui, parce que c'est un système qui est violent. Charlotte Puiseux, comment peut-on décrire la violence de ce validisme? Vous dites en 2019 dans le podcast À Soi de Charlotte Bien-Aimée qu'on vous fait comprendre que vous êtes monstrueuse.
Alors le validisme, il peut vraiment s'exprimer de multiples façons, plus ou moins violentes, c'est plus ou moins bienveillantes. On parle aussi de validisme bienveillant des fois, parce qu'il y a des actions comme ça qui sont faites, qui paraissent pas en soi méchantes, qui parlent pas, on va dire, d'un sentiment d'une mauvaise intention, mais qui sont reçues par les personnes handicapées comme quelque chose d'agressif. Par exemple, aider une personne à traverser la rue, par exemple, alors qu'elle ne demande pas d'aide, la forcer un petit peu, entre guillemets, à accepter l'aide qu'on veut lui proposer sous couvert de bonnes actions. Ça, par exemple, c'est une anecdote que beaucoup de personnes handicapées relatent et qui les énerve et les blesse beaucoup, et qu'on va appeler du validisme bienveillant. Mais après, le validisme, c'est bien sûr, c'est pas que ça. C'est aussi d'une extrême violence. Ça peut être carrément la suppression des personnes handicapées. Ça peut aller jusqu'au meurtre. On voit beaucoup ce qu'on a appelé d'handicide. On a fait une fiche sur l'Handitech. L'Handitech, c'est un projet collaboratif avec une autre militante handicapée qui s'appelle Kiara Khan, avec qui je travaille justement à développer les ressources autour des questions de validisme, de handicap, les militantes en situation de handicap, mais aussi toutes les questions d'information. Et on a traité justement la question du handicide à l'occasion d'un handicide qui avait eu lieu il y a quelques semaines. C'est aussi, on l'a vu pendant le Covid, bien sûr, l'exemple extrême de comment on traite les personnes en situation de handicap, où on dit clairement, c'est écrit sur des circulaires dans les hôpitaux, que la vie des personnes handicapées vaut moins et que les personnes handicapées n'ont pas à être soignées et prises en charge dans les réanimations.
Dans vos travaux, vous adoptez également une démarche intersectionnelle. Donc, par exemple, être une femme en situation de handicap et admettons qu'on ajoute le fait d'être queer, c'est subir le sexisme, le validisme et la LGBT-phobie tout à la fois. Est-ce que c'est une simple addition ou est-ce que ça se renforce? C'est comment?
Alors, je reviens juste sur le mot intersectionnalité. Ce mot, il vient des féministes noires états-uniennes qui ont vraiment développé ce concept pour parler de leur situation spécifique à la croisée du sexisme et du racisme. Il a été notamment théorisé par une juriste afro-américaine, Kimberly Crenshaw. Donc, le mot intersectionnalité en lui-même englobe la notion de racisme et les questions de lutte antiraciste. Donc, c'est vrai que quand on ne parle pas de ces questions-là, moi, je préfère employer croisement des oppressions, parce qu'évidemment, ce concept est d'une énorme richesse et a permis de comprendre tellement de choses qui vont bien au-delà. Mais c'est important de rendre, du coup, ce concept aux féministes noires états-uniennes qui l'ont développé. Donc moi, quand je parle de mon vécu, je parle en tant que personne assignée femme en situation de handicap. Donc, je ne parle pas forcément des questions antiracistes et liées au racisme. Donc, oui, forcément, comme on disait, être une femme en situation de handicap, en tout cas être perçue socialement comme telle, change la donne que d'être, entre guillemets, juste un homme en situation de handicap ou juste une femme valide. Ça modifie les expériences vécues par les personnes qui subissent et à la fois le validisme et le sexisme.
Dans un de vos articles qui s'appelle « Les mutants oubliés », vous mobilisez la notion de vulnérabilité qui justifierait d'être dominé. Il y a un rapport de force très clair dans cette société. On en parlait tout à l'heure, mais il y a une binarité entre ceux qui sont considérés comme valides et les autres, et les femmes et les hommes.
Alors moi, ce qui me choque profondément et ce que j'essaie d'expliquer toujours, c'est que d'autant plus en tant que femme en situation de handicap, on est doublement vulnérabilisée. En fait, c'est la construction sociale de cette vulnérabilité. C'est-à-dire à quel point, en fait, on nous place aussi dans cette vulnérabilité en nous donnant aucun moyen, que ce soit économique notamment, que ce soit humain, voilà, parce que si on a besoin d'être spécifique... que ce soit éducationnel aussi, parce que quand on pense à notamment aux violences sexuelles, enfin ce qui touche les femmes en situation de handicap de façon exponentielle, elles sont les premières victimes de ces violences. Donc, s'interroge pas en fait comment en fait on les place dans cette situation de vulnérabilité, c'est-à-dire que il y a peu d'accès à l'éducation sexuelle et par exemple à la notion de consentement. Beaucoup de femmes en situation de handicap, y compris aussi de femmes qui ont un handicap psychique ou intellectuel, on leur explique pas ce que c'est que le consentement. On leur explique pas qu'elles peuvent dire non, qu'elles ont le droit de dire non et que s'il se passe quelque chose, eh ben, elles ont le droit d'aller se plaindre et de dénoncer ce qui s'est passé. Donc tout ça, en fait, il y a très peu d'éducation.
Comment ça se fait? C'est un manque d'éducation, une infantilisation peut-être? Comment vous expliquez tout ça?
Ben après, je pense qu'il y a un gros rôle des institutions spécialisées, c'est-à-dire que ces personnes-là, d'autant plus quand on parle de personnes qui ont des handicaps intellectuels, sont beaucoup dans les institutions spécialisées, où il y a vraiment non seulement un manque d'éducation à la sexualité, mais aussi, on va dire ce qui est, hein, des violences perpétuées par le personnel, parce que en fait c'est un lieu propice aux violences, c'est un lieu fermé, c'est un lieu clos avec très peu de contrôle extérieur, donc c'est un lieu très propice aux violences, et ça a été démontré par de multiples enquêtes. Les institutions spécialisées ont été dénoncées pour ça et pour d'autres choses par l'ONU notamment. La France a été montrée du doigt et sommée de réfléchir à une politique de désinstitutionnalisation, ce qu'elle ne fait pas vraiment. Mais bon, les institutions spécialisées sont un gros problème sur les violences sexuelles notamment, mais pas que. Et du coup, ça contribue à ça et d'autres choses. Parce qu'il y a aussi... Moi, je pense par exemple pour les personnes qui ne sont pas en institution, mais qui... qui du coup se retrouve aussi avec une très grande mésestime d'elle-même, c'est-à-dire on leur apprend pas à se considérer comme ayant de la valeur, comme étant belle, comme étant désirable, comme étant voilà, et du coup à avoir une certaine forme de pouvoir aussi dans la relation amoureuse, sexuelle, pouvoir dire non, parce qu'en fait beaucoup de personnes handicapées, notamment de femmes, vont avoir ce raisonnement de se dire « oui, mais je suis tellement indésirable que si une personne s'intéresse à moi, je vais pas lui dire non ». Et donc, il y a un champ comme ça qui s'ouvre pour les agresseurs qui est énorme. Et moi, quand je parle de ces questions, je parle de violeurs bienfaiteurs parce qu'en fait, les personnes qui violent ces femmes vont pas être perçues comme des violeurs la plupart du temps, mais comme des bienfaiteurs, c'est-à-dire comme des personnes qui se sont intéressées à des femmes dont personne ne veut. Mmh. Et même les femmes handicapées intériorisent ce raisonnement. Donc on rentre en fait dans un processus de négation du crime qui s'est produit, de la violence qui est normalisée. De l'extérieur, parce que si les femmes handicapées osent en parler, on va leur dire ça. Plein de témoignages ont été recueillis, que ce soit de la part de l'entourage, y compris aussi de la part de la police, des fois quand elles vont porter plainte. Mais aussi, comme je vous disais, de la part des femmes elles-mêmes, qui, du coup, intériorisent cette violence.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Charlotte Puiseux, quand je suis venue vers vous, c'était d'abord pour vous interroger sur le rapport à l'amour et aussi aux expériences diverses et variées que pouvaient avoir les personnes en situation de handicap en relation à l'amour et aussi les expériences sexuelles. Le validisme entrave ce qu'il juge comme les mauvais corps à de nombreux niveaux, donc travail, logement, loisirs. Mais pour ce qui est des relations amoureuses, en quoi le validisme est un obstacle pour les personnes porteuses de handicap ?
Ça revient à plusieurs thèmes qu'on a abordés, la question de la monstruosité, la question de l'indésirabilité, le validisme, c'est ce qu'on appelle aussi en philosophie, ça fait aussi partie des travaux de ma thèse, c'est un idéal régulateur. C'est-à-dire qu'au même titre, par exemple, que l'hétéronormativité, c'est un système, en fait, dans lequel chaque individu de la société naît, vit et meurt. Donc en fait, on se construit, y compris les personnes handicapées. Encore une fois, on se construit avec cette idée que la validité est source de bonheur, que la validité est source de beauté, que la validité, c'est le Graal. Et donc y compris sur les questions d'amour, de désirabilité, de sexualité, on grandit pas du tout dans l'idée qu'un corps handicapé peut être beau, désirable. Bien au contraire, on nous apprend, quand je dis nous, ces personnes valides comme personnes handicapées, dès le plus jeune âge, à rejeter ces corps, à les considérer comme indésirables. Donc nos désirs sont façonnés socialement et politiquement pour rejeter les corps handicapés.
Pardon, quand vous dites on nous apprend, c'est qui ? C'est l'éducation, les parents, l'école, la société en général ? C'est tout un système, encore une fois ?
Oui, tout à fait. C'est aussi, je pense, à la culture, par exemple, parce qu'on s'inspire quand même beaucoup aussi des films, des livres, des séries qu'on peut voir, des représentations culturelles qui sont dans notre société. Et là, on voit à quel point il y a une défaillance énorme. C'est-à-dire que déjà, il y a un manque cruel de représentation de personnes handicapées. Et en plus, quand elles sont représentées, bon, c'est pas sous leur meilleur jour, on va être honnête, hein. C'est justement avec tous ces préjugés de personnes malheureuses, de qui ont vécu une horrible tragédie, qu'il faut réparer, ces personnes rejetées de la société. On parle souvent de soit de misérabilisme, les personnages du coup sont les pauvres personnes aigries qui en veulent à la terre entière de leur destin tragique, ou alors l'inspiration porn aussi qui est très très présent dans les représentations culturelles, c'est d'utiliser la personne handicapée comme une source d'inspiration. Mais alors ce phénomène est assez complexe, je trouve, mais voilà, il est assez parlant de ce qui se passe, c'est qu'en fait en utilisant déjà une personne, c'est-à-dire un individu, donc on le sort de tout un contexte social, on ne traite que son individualité, il est comme ça en le présentant comme une super héroïne, on dit en fait à toutes les autres personnes handicapé, bah, si vous n'avez pas réussi, en fait, c'est que vous ne vouliez pas vraiment réussir. Donc, on rejette la faute sur leur volonté et non sur les conditions sociales. Et puis, en plus, on dit aussi aux personnes valides, oui, mais quand même, toi, t'es valide, te plains pas trop, quoi. Donc, on force comme ça ces personnes qui font de l'inspiration porn à performer, encore une fois, la validité, à essayer de se rapprocher le plus possible de la validité, tout en sachant que ça sera jamais totalement possible. Donc, quand même, on leur dit bien, quand même, de façon implicite, bon, essaye, mais tu sais très bien que tu vas pas y arriver. Et du coup, on se sert de ces discours pour dire aux personnes valides, bon, allez là, c'est bon, bougez-vous un peu, si une personne handicapée peut y arriver, c'est que vous pouvez faire bien plus.
Pour rester autour de ce sujet de l'amour, de la sexualité, votre approche, elle est également éclairante parce qu'elle évoque les questions queer. Vous avez dans votre ouvrage un chapitre qui s'appelle « Queeriser le handicap ». Et c'est peut-être le moment de parler du terme « creep » qui à l'origine signifie « estropié »,« infirme », mais qui est réapproprié dans les sphères militantes. En quoi ce prisme « creep » est pertinent pour vous dans votre travail ?
Alors moi, le mot creep, je l'ai découvert en ma thèse. En fait, j'avais commencé déjà ma thèse quand j'ai découvert ce mot, qui pourtant, du coup, a été finalement le centre de ma thèse. Mais à la base, quand j'ai commencé ma thèse, mon idée, c'était de réfléchir justement à comment le handicap et les personnes handicapées pouvaient bousculer les normes sociales, pouvaient aider à réinventer une société plus juste, plus équitable. Voilà, bon, je m'intéressais déjà aux questions anticapitalistes, notamment. Voilà, c'est quelque chose quand même qui reste très présent. Par mes recherches, j'ai découvert le mot « creep ». Et du coup, pour moi, ça a été un peu une révélation dans le sens où je me suis dit, mais en fait, ces personnes voilà, qui créent ce mouvement « creep », parce que bah, il y avait déjà beaucoup de choses quand même, notamment aux États-Unis, aussi bien en termes universitaires qu'artistiques, militants. C'est ce qu'elles font, en fait. Elles disent qu'il n'y a pas de honte à être handicapé, qu'au contraire, on peut en être fier. On retrouve cette notion de fierté voilà, qu'on a, par exemple, dans la marche des fiertés dans le mouvement LGBTIA+. Et donc, cette notion de fierté qui vient du mouvement LGBTIA+, il a été repris par les militantes Andy, et je le trouve hyper intéressant. Moi, il m'a beaucoup apporté, il m'a beaucoup aidé, et voilà, je trouve que cette notion de retournement du stigmate, parce que c'est ça, c'est comment on passe de la honte à la fierté, elle est hyper intéressante, quoi.
Charlotte, puis-je vous rappeler aussi que dans l'imaginaire commun, les femmes handicapées n'ont pas de sexualité. Peut-être qu'on pourrait même élargir cela au reste des personnes handicapées. Votre livre, c'est aussi un combat pour que ces idées reçues s'arrêtent, pour que justement on parle de cette sexualité qui est considérée comme taboue parce que imparfaite et repoussante aux yeux du validisme.
Alors, les questions de sexualité, elles sont assez vastes et complexes parce qu'elles recouvrent plusieurs champs. On parlait de l'amour tout à l'heure, mais la sexualité, c'est pas que ça. Ça peut être aussi, juste la sexualité entre guillemets. Donc, je dirais, il y a plusieurs choses. C'est que justement, quand on rentre dans le champ amoureux, il y a tout ce qu'on a évoqué déjà sur le fait que les personnes se projettent pas avec des personnes handicapées, et notamment des femmes, parce que selon les préjugés, elles ne pourront pas assurer leur rôle au sein du couple, et notamment aussi au sein peut-être éventuellement de la famille, de la maternité, etc. Donc là, ça va bien au-delà de la sexualité. Mais après, il y a aussi ce qu'on appelle, j'en parle un petit peu dans le livre, les dévots, par exemple, où là, on sort du coup du cadre de l'amour pour être plus vraiment dans la sexualité pure, on va dire. Les dévots, ce sont souvent des hommes, majoritairement, des hommes hétérosexuels qui recherchent justement des expériences sexuelles avec des femmes en situation de handicap. C'est une sorte de fétichisme, en fait. On peut expliquer ça comme ça. Et donc là, on est vraiment dans des enjeux de sexualité où on entend des fois des femmes qui disent « Oui, tel partenaire ne voulait qu'une expérience avec une femme handicapée pour voir ce que ça faisait. » Donc il y a quand même une forme de sexualisation de ce côté-là. Je sais aussi, par exemple, que que dans le travail du sexe, par exemple, parce que il y a pas mal de femmes en situation de handicap qui font du travail sexuel, parce que justement, au vu des soucis de précarité économique dans lesquels beaucoup de personnes handicapées se trouvent avec une AAH, on le rappelle, en dessous du seuil de pauvreté, le travail du sexe peut être une façon de sortir de la précarité. Et donc là, forcément, quand on rentre dans cette sphère-là, j'ai envie de dire le dévotisme, donc tout ce qui est lié au dévot à ces hommes qui cherchent des relations sexuelles avec des femmes handicapées peut être une source de revenus pour ce travail du sexe.
Et pour finir, peut-être une dernière question. J'aimerais reprendre cette phrase de Dominique Masson qui disait qu'il est important pour les féministes de réaliser que les femmes handicapées ne sont pas les autres, mais nous. Elle rappelle là l'importance de l'inclusivité dans le féminisme, entre autres en raison du fait que chaque femme peut basculer à tout moment dans cette catégorie identitaire. Est-ce que vous pensez que c'est l'une des raisons pour lesquelles cette question du handicap est encore marginale dans les études féministes? Parce que c'est une perspective qui fait peur aux femmes. Et d'ailleurs, cette phrase-là, c'était en 2013, donc peut-être qu'il y a des choses qui ont changé entre-temps.
Le fait que le combat des personnes handicapées, là je parle pas forcément lié au féminisme, mais... Les luttes antivalidistes sont un peu les dernières roues du carrosse, comme on dit, des luttes sociales. Ça, c'est une question qu'on me pose assez souvent, qu'on me demande pourquoi c'est comme ça. Alors, je pense qu'il y a de multiples raisons, je pense que, pour résumer brièvement, la clé, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tant qu'on considérera que la vie des personnes handicapées a moins de valeur que la vie des personnes valides, et ça, je pense, en fait, sincèrement, qu'on le pense tous, même moi, de façon plus ou moins consciente, parce qu'encore une fois, on a grandi dans cette idée-là, et que c'est une déconstruction qu'on doit faire, et comme toute déconstruction, elle n'est pas facile, on en est toutes et tous plus à des stades différents.
Et ça se fait sur des générations.
Voilà, exactement, ça prend du temps. Mais pour moi, en fait, c'est la base de ce qui fait que les luttes antivalidistes ont du mal à avancer, y compris dans des sphères qu'on pourrait penser... progressistes, militantes, déjà au fait des questions de lutte comme ça, de discrimination, etc., dont le féminisme. Mais parce que, voilà, dans le féminisme comme ailleurs, on garde cette idée que ce qui touche à la vie des personnes handicapées, c'est normal, en fait. C'est parce que c'est dû à leurs conditions physiques, à leurs conditions individuelles. C'est pas dû à des conditions sociales. Ça aussi, du coup, ça entrave l'idée qu'on peut changer les choses. Parce que si on considère que c'est le corps individuel qui est responsable de la situation de la personne, en tant que militante extérieure, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors que si on considère que sa situation est due à des choix politiques, à des choix sociaux, à des conditions sociales, en tant que militante extérieure, du coup, on peut se dire, on peut lutter ensemble pour une meilleure société.
Merci beaucoup Charlotte Puiseux. Je rappelle le titre de votre ouvrage, De chair et de fer, vivre et lutter dans une société validiste, aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute. Cet épisode d'Univox, à l'occasion du mois du genre, a été réalisé par Radio Campus Angers.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.